RJB Info, Olivier Zano.
Bonjour, Gastro Suisse veut que le Conseil fédéral lâche du lest. Dans un communiqué de presse transmis aujourd'hui, la fêtière des restaurants et hôtels réclame l'assouplissement des mesures imposées à ses membres en raison de la lutte contre la pandémie. Depuis le 11 mai, les restaurants peuvent à nouveau accueillir leurs clients. Les trois quarts ont saisi l'opportunité, mais les gérants craignent pour leur chiffre d'affaires. Les explications de Nancy Chapuis.
9 établissements sur 10 s'attendent à des pertes. Gastro Suisse se base sur un sondage réalisé en ligne. Plus de 3000 personnes y ont répondu. Le président de la fêtière indique que sur la première semaine de réouverture, le chiffre d'affaires est en recul de 60%. Casimir Platzer précise que cette baisse est liée aux mesures de restriction, comme le nombre de 4 clients par groupe ou les distances à respecter entre les tables. La plupart des établissements ont été contraints de réduire le nombre de places assises de 35 à 65%. Au nom des 20 000 membres, Gastro Suisse et les sections cantonales appellent à un nouvel assouplissement rapide. Le communiqué souligne encore qu'une vague de faillites dans l'hôtellerie-restauration, qui compte plus de 260 000 emplois, aurait des conséquences imprévisibles.
Le sondage effectué par Gastro Suisse confirme que la branche respecte le plan de protection contre le Covid-19. Lors de la première semaine de réouverture, un quart des établissements ont été contrôlés. Seuls 10% d'entre eux n'étaient pas totalement conformes. Autre réouverture, celle des salles de fitness de la région qui accueillent à nouveau les sportifs depuis le 11 mai. À Saint-Imier, le centre Fitness Énergie compte environ 350 abonnés. Mais on ne se bouscule pas encore au portillon depuis la reprise. Le propriétaire des lieux ne s'étonne pas vraiment. Les craintes sont encore nombreuses parmi la population et le fait de se retrouver à plusieurs dans un espace limité peut créer un malaise selon lui. Oscar Burio a réaménagé le centre pour respecter les consignes de sécurité. Il a aussi élargi les horaires d'ouverture.
Avant, on était fermé une partie de l'après-midi. Maintenant, on est ouvert de 9h du matin jusqu'à 20h30 le soir. On a aussi élargi le samedi. Et puis, avec ça, on arrive à répartir plus le monde sur toute la plage horaire, alors qu'avant, c'était peut-être un peu plus concentré, quoi.
Peut-être encore un mot sur les fidèles qui sont déjà de retour à l'entraînement. Qu'est-ce qu'ils partagent avec vous depuis qu'ils reviennent s'entraîner?
Alors, déjà, quand ils viennent s'entraîner, ils sont un peu déboussolés parce que, bon, la salle a un peu changé, il y a plus d'espace et tout ça. Alors, tout le monde est content et puis souvent on nous remercie parce qu'on a pu ouvrir et puis ils voient le travail qui a été fait pour mettre en place toutes ces zones de sécurité. Puis après, leur système a été un peu chamboulé, c'est-à-dire que c'est eux qui annoncent leur arrivée en timbrant leur carte. Ils doivent remplir un questionnaire de santé. Puis après, à chaque machine, il faut nettoyer. Alors qu'avant, on faisait une série. Et puis voilà, maintenant, à chaque série qui est faite, on nettoie la machine chaque fois qu'on change. Et voilà, on a mis des points pour les nettoyages avec beaucoup plus de solutions désinfectantes. Après, ce qui ressort, c'est que après 2 mois, même si souvent les habitués s'entraînent à la maison ou à l'extérieur, ils disent que c'est pas facile de reprendre. Donc, mais ils sont très contents de reprendre, quoi.
Oscar Burio s'attend évidemment à des pertes au niveau financier. Les abonnements mensuels permettent toutefois de les répartir dans le temps. Plusieurs experts s'expriment dans la presse alémanique au sujet de la crise liée à la maladie. Dans le Sonntagsblick, l'épidémiologiste Marcel Tanner recommande le port du masque de manière sélective en Suisse. Lorsque la règle de distanciation sociale ne peut plus être appliquée, comme dans les transports publics ou dans les entreprises de services, il préconise de le rendre obligatoire. Une mesure nécessaire, d'autant plus qu'aucun vaccin n'est encore sorti des laboratoires, selon la NZZ am Sonntag. Le chemin à parcourir est encore long avant qu'un principe actif approuvé soit disponible en masse pour la population mondiale, selon les propos d'un spécialiste relayé par le journal. Et même si aucun vaccin n'est encore disponible, le Conseil fédéral a prévu 200 millions de francs pour l'achat de 10 millions de doses, toujours d'après la NZZ. À raison de 2 injections par personne, près de 60% de la population pourra ainsi être vaccinée. Dans un premier temps, les enfants devraient être exemptés de la vaccination, selon l'OFSP. Et on rappelle qu'hier, la Suisse enregistrait 18 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, ainsi que 3 décès supplémentaires. Avec la multitude d'informations en tout genre sur le coronavirus, les avis des uns et des autres, il peut s'avérer compliqué de démêler le vrai du faux et de se forger une opinion claire. Quentin Haas est immunologiste à l'hôpital de Lille à Berne. Il a pris du temps pour vulgariser les recherches et statistiques en lien avec le Covid-19 et a mis en ligne des publications sur Facebook qui ont été très largement partagées. De manière informelle, le député au Parlement jurassien a ainsi endossé un rôle de médiation, Quentin Haas.
Il faut savoir que l'OFSP, par exemple, a fait un très bon travail de communication à l'échelle suisse sur comment informer les gens sur le coronavirus, sur la pathogénicité, sur les syndromes, sur les symptômes. Seulement, le problème, c'est que la plupart de ces informations, elles sont noyées. Et c'est le gros problème qu'il y avait actuellement, et c'est ce que j'ai voulu mettre en avant avec, avec mes publications. C'est pas tant qu'il y a beaucoup d'informations, tout l'intérêt c'est de trouver lesquelles valent la peine, et surtout savoir croiser les références. Qu'importe qui vous dit quoi, allez chercher au bon endroit, au bon moment, les bons chiffres, et croisez-les avec les autres informations que vous avez trouvées. Et c'est très compliqué, parce qu'on n'a pas forcément reçu la formation, pour être capable de démêler le vrai du faux dans ces mesures-là, surtout que le vrai et le faux, en termes statistiques, c'est extrêmement compliqué à aborder, parce qu'on peut très vite donner une signification à des chiffres qui s'avèrent être soit surévalués ou sous-estimés. Donc c'est quelque chose qui prend pas mal de temps, qui demande énormément de recul, et c'est pas simple pour une personne qui n'a pas reçu une formation dans ce genre de domaine.
Vous pouvez retrouver l'interview complète de Quentin sur notre site internet rjb.ch. On le sait, la crise du Covid-19 a bouleversé notre façon de vivre ces dernières semaines, et c'est le cas dans notre façon de consommer et plus particulièrement de payer. Le cash circule en effet beaucoup moins par peur des risques de contamination. À l'heure actuelle, les banques centrales ont repris les discussions sur la création d'une monnaie digitale. Alors, est-il possible de voir l'argent liquide disparaître dans les années à venir? C'est très peu probable, selon Michel Girardin, chargé de cours à la faculté d'économie et de management de l'Université de Genève.
Les deux vont rester. On l'a vu aussi dans certains projets comme en Suède où on parle d'introduire des monnaies digitales. Finalement, la banque centrale, elle a rétro-pédalé parce qu'on se rend compte qu'il y a des problèmes techniques. Peut-être qu'il faut avoir toujours Internet qui fonctionne pour pouvoir payer son journal ou son café. Il y a des couches de la population qui n'ont pas de téléphone. Donc le cash va toujours rester. Mais ce qu'on voit, c'est que son importance diminue, notamment en Suède. Les paiements en liquide représentent moins de 1% de la valeur du PIB de la Suède. Alors qu'en Suisse, par exemple, cette proportion, elle est beaucoup plus importante. Elle est supérieure à 10%. Les Suisses aiment le cash physique. Et ça va rester, je pense.
Dans le reste de l'actualité, Benjamin Netanyahou face à la justice. Le procès du Premier ministre israélien s'est ouvert aujourd'hui. Il est le premier chef de gouvernement de l'histoire du pays à faire face à des accusations criminelles de corruption au cours de son mandat. À 70 ans, Benjamin Netanyahou est accusé d'avoir reçu pour 192 000 francs de cigares, champagne et bijoux de la part de personnalités richissimes en échange de faveurs financières ou personnelles. On lui reproche aussi de s'être payé une couverture médiatique positive à coup de faveurs gouvernementales. La Chine et les États-Unis au bord d'une nouvelle guerre froide, c'est le ministre chinois des Affaires étrangères qui l'a déclaré aujourd'hui. Wang Yi déplore le regain de tension avec Washington autour de l'épidémie de Covid-19. Le président Donald Trump a régulièrement accusé ces dernières semaines les autorités chinoises d'avoir tardé à communiquer des données cruciales sur la gravité du virus, dont la propagation aurait pu, selon lui, être endiguée. Et la Chine se dit en tout cas prête à une coopération internationale afin d'identifier la source du nouveau coronavirus. Mais une telle coopération devra s'abstenir de toute ingérence politique, selon Pékin. Après le fret, les hommes, la société spatiale américaine SpaceX va lancer deux astronautes de la NASA mercredi prochain vers la Station spatiale internationale. Il s'agira du premier vol habité lancé depuis les États-Unis en 9 ans. Ce programme a été lancé par Barack Obama, mais son successeur Donald Trump y voit un symbole de sa stratégie de domination américaine de l'espace, sur les plans militaires mais aussi civils. Le président a ordonné à la NASA de retourner sur la Lune en 2024, un calendrier improbable mais qui a donné un coup de fouet à la vieille agence spatiale. Il avait vécu l'enfer des bombardements à Berlin lors de la Seconde Guerre mondiale. L'alligator du Mississippi, Saturn, est mort vendredi aux eaux de Moscou, où il avait été élu domicile en 1946. L'animal s'est éteint à l'âge plus que respectable de 84 ans. Il était devenu une véritable légende. La durée de vie de ces alligators se situe habituellement entre 30 et 50 ans dans la nature. En sport, une lueur d'espoir pour les organisateurs du Lauberhorn. L'entrepreneur Jörg Moser est prêt à mettre 300 000 francs à disposition et envoie ainsi un signal fort en plein litige entre Wengen et Suiski. Les deux parties s'opposent sur le financement de la mythique épreuve de Coupe du Monde de ski alpin. Une rencontre entre la conseillère fédérale Viola Amerd, Urs Lehmann, président de Suiski, et Urs Nepflin, président du comité d'organisation, a été agendée dans le but de trouver une solution. Et l'avenir de la course inquiète aussi dans la région. La députée UDC Anne-Caroline Graber vient de déposer une interpellation au Grand Conseil bernois. Elle estime que la disparition de la traditionnelle descente porterait un coup extrêmement dommageable à l'image du canton de Berne, à son tourisme et à son économie. La Neuvilloise demande au gouvernement si ce dernier est prêt à mettre tout son poids institutionnel et politique dans la balance. Et pour terminer ce journal des nouvelles du ciel, les rayons de soleil ont déjà percé les bancs de nuages durant la matinée. Ces stratocumulus plus ou moins étendus par endroits se résorberont au fil des heures avec un temps bien ensoleillé au final. Températures seront comprises entre 16 degrés à Saint-Imier et 20 degrés à La Neuville. Dès demain, conditions anticycloniques qui perdureront au moins jusqu'à jeudi. C'est la fin de cette édition. L'information continue en tout temps sur notre site rjb.ch. Je vous retrouve à 18h pour le journal. Très belle journée à vous.